Marc Azéma, pour cette troisième partie, on va commencer par revenir plus en détail sur quelque chose que vous avez à peine survolé tout à l'heure, les chantiers actuels. Il y a des fouilles, bien entendu, sur la Narbonnaise, dont certaines ont mis à jour des, on peut dire, alors pas des bâtiments, mais des restes prestigieux.
Alors, il y a eu récemment, donc ces 10 dernières années, principalement, hormis le clos à Lombard, qui est toujours plus ou moins fouillé, hein. C'est vrai qu'il y a la fouille de la nécropole par l'INRAP
qui est terminée.
Il y a eu la fouille, évidemment, du Capitole au sein du collège
Victor Hugo,
qui était formidable, parce que ça fait participer des gamins, donc c'est des expériences formidables. Et il y a toujours donc les fouilles de Corinne Sanchez, qui sont engagées maintenant depuis 2009-2010, et qui ont pour vocation de révéler les structures portuaires à l'échelle des étangs de Narbonne, qui étaient, comme vous le savez, le second port le plus important de l'Antiquité pour la Méditerranée occidentale, après Rome, après celui de Rome et d'Ostie, qui est un peu le modèle de notre port.
Et si vous permettez cette parenthèse, Georges Frêche, de son vivant, avait dit « Moi, je ferai en sorte qu'on fouille le long de la côte pour trouver des bateaux ».
Et oui, il a dit ça. Et il aurait aimé voir le résultat des fouilles de Corinne, quand Corinne est tombée donc sur les deux bateaux.
Alors, c'était pas sur la côte, mais à l'intérieur de la lagune.
Voilà. Ben, les bateaux sur la côte, ils y étaient. Dans les années 70, quand Port Grussa a été construit, on sait très bien qu'il y avait des vestiges de bateaux qui ont malheureusement disparu. Donc, il y a certainement d'autres bateaux dans les étangs ou sur la côte, sauf que, vu l'ensablement notable...
Oui, et puis ça demande de gros moyens.
Voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait apprécié le jour où Corinne Sanchez et son équipe ont découvert les petits bateaux dans les quais, voyages chassés dans les quais, qui servaient de remblais, qui étaient farcis d'amphores et qui étaient le symbole... Moi, je pense que c'est vraiment le symbole de ce port, quoi. Donc, ces deux navires et le quai adjacent, c'était vraiment le symbole de la structure industrielle de ce port antique, quoi.
Ça se trouve où par rapport à aujourd'hui ?
Alors, c'est à la hauteur du Grand Castelou, hein.
C'est le Grand Castelou.
Voilà, ça, c'est autour du Grand Castelou. Donc, Corinne a fouillé à différents endroits, donc autour des étangs, et là elle fouille évidemment à la nautique. Hein,
alors la nautique, oui, là c'est là où il y a une découverte aussi de poids, si je puis dire.
Et oui, voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film. Donc il y a, dans un premier temps, avait été découvert un énorme vivier, donc un bassin privé qui permettait donc d'élever des poissons pour les déguster au milieu d'un salon qui était situé au milieu de ce vivier. Donc c'est un vivier gigantesque qui est du jamais vu pour l'Antiquité, qui est un vivier privé. On n'a pas d'équivalent dans le monde romain, enfin aussi important. Ça voulait dire qu'il y avait déjà une structure énorme. Ça allait dans le sens, toujours pareil, du fait qu'on était dans une capitale. Et ça voulait dire qu'il y avait certainement une maison à proximité, enfin une villa à proximité. Et c'est ce qu'a découvert Corinne donc quelques temps après. Et actuellement, elle travaille donc sur cette fouille qui est quand même, rendez-vous compte, c'est une villa énorme. C'est pareil, il n'y a pas réellement d'équivalent. En fait, les seuls équivalents sont les villas impériales à Capri, etc. Donc c'est quelque chose de fondamental. C'est une grande fouille qui démarre et que moi j'espère pouvoir suivre.
Qui va durer des années.
Qui va durer des années. Et là aussi, je pense que Frêche aurait été assez satisfait de ces fouilles-là, dans le sens où il y a de très fortes chances que cette fouille et que cette villa ait appartenu à l'empereur Auguste, qui a fait capitale cette ville.
Donc il serait venu à Narbonne, aurait séjourné à Narbonne.
Voilà, donc Auguste était là. Donc ça va là aussi. Ça finit de contribuer à démontrer qu'on était non seulement capitale, mais que voilà, qu'on avait un lien privilégié avec Rome et l'empereur. Donc ça, c'est quand même fou, quoi. Et cette ville-là, comme par hasard, dominait les ports. Donc c'est symbolique également.
L'île Saint-Martin à Gruissan aussi, je crois qu'il y a eu des foules.
Alors il y a aussi des foules. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'avant-port. Donc c'est des sites qui mériteraient d'ailleurs d'être valorisés. Je pense qu'ils le seront à terme, hein, parce que ça, il y a tout un maillage sur le territoire de sites archéologiques formidables qui renvoient à la romanité ou à des sites plus anciens, qui fait qu'on sent la romanité à ces endroits-là. Donc là, à l'île Saint-Martin, à l'extrémité de Saint-Martin, il y avait des bâtiments qui correspondaient à ce qu'on appelait une douane ou une capitainerie. Vous voyez, c'était un système de contrôle des navires.
C'était l'entrée dans la lagune.
Quoi, voilà, ça servait en fait à contrôler l'entrée dans la lagune. Il y avait plusieurs entrées, il y avait au moins trois entrées principales dans la lagune. Et donc là, c'était des bâtiments qui permettaient de contrôler les marchandises. Enfin, il y avait des douanes, etc. Mais il y a des structures qui ont été mises en évidence, notamment, je crois qu'il y a des thermes également. Et y avait une tour. Alors, est-ce qu'au départ, on pensait que c'était un phare? Est-ce que c'est un phare, une tour? Mais bon, il y avait une élévation également. Et on peut supposer que tout au long, enfin, sur l'ensemble de cette lagune, il y avait probablement des phares un peu partout pour diriger les navigateurs, quoi. Donc, ça, c'est vraiment c'est des points très, très importants qui sont toujours en cours de fouille.
En suspens, et voilà. Pour de nombreuses années.
Ben, en théorie, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que quand on voit l'étendue de ce territoire, et surtout par rapport à ce que j'ai déjà abordé, c'est qu'on a, comme on n'a pas eu les moyens, finalement, de fouiller pendant longtemps sur ces territoires, alors qu'on était capitale, là, ça se met en place. Et je pense qu'il va y avoir des. C'est passionnant parce qu'il va y avoir de plus en plus de missions. Les Narbonnais comprennent de plus en plus les enjeux de ces missions-là. Donc il y a une dynamique qui se crée, qui fait que progressivement, on en saura plus sur cette capitale, sur son fonctionnement à la fois du port et de la cité. Donc ça, c'est formidable.
Oui, et on peut dire que la présence donc du musée Narbovia, maintenant, est tellement incontournable que voilà. Ça enfonce le clou, en quelque sorte, voilà. sur l'avancement et la nécessité de continuer à chercher.
Exactement. Ça, c'est ce qui nous manquait. Hein. On avait déjà le musée archéologique était très très beau, etc. Moi, c'est vraiment des souvenirs très émus. On avait le lapidaire qui était fabuleux aussi. Moi, c'est des monuments qui ont marqué ma vie. Hein. Donc, et là, maintenant, on a ce grand musée qui est vraiment la borne qui nous manquait pour signifier à l'extérieur, au monde, dire voilà, la capitale était là. Et d'ailleurs, vous le voyez à travers ce musée, vous le voyez à travers ce mur lapidaire, vous voyez à travers les collections. C'est pas un mirage, quoi.
Oui, enfin, Narbonne est placée sur la carte de l'Antiquité romaine.
C'est ça, sur la carte de l'Antiquité romaine. Et il faut quand même, vous le savez, mais les Narbonnais et de plus en plus des gens extérieurs, on a quand même un des plus gros musées d'archéologie d'Europe, quoi. Mmh. Mais
enfin, il y a quelque chose à la hauteur oui,
voilà, de cette période-là, et qui vient en résonance évidemment avec l'ensemble bâti du Palais des Archevêques, qui est une merveille, qui est le deuxième ensemble bâti après celui d'Avignon, et la cathédrale, qui est une des plus grandes élévations de France. Donc on a des joyaux architecturaux maintenant pour toutes les périodes. Et ce symbole donc de la romanité. Donc on a. Moi, j'ai pas connaissance d'une ville aussi dense. Hein. C'est vrai que venant de la bouche de Narbonnais, c'est toujours douteux, mais c'est vrai, quoi. Vous le savez.
Vous organisez d'ailleurs chaque année un festival avec une association qui s'appelle l'ARCAM. Chaque année, il y a ce festival. Et bien entendu, il aura lieu cette année encore.
Alors, il aura lieu cette année encore. Ça sera la 10e édition. Et pour la petite histoire, c'était une évidence qu'il fallait créer un festival d'archéologie. Et au-delà de ça, c'était une évidence. Bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai dit, vous savez, on peut prendre la main sur l'archéologie. Alors, c'est un peu trivial, mais parce que c'est une ville qui suinte l'archéologie du fait de son histoire. Donc c'est vrai que c'est de la science, mais c'est pas que de la science, c'est du passé, c'est de la pédagogie. Et donc si on doit parler de tout ça à un endroit, c'est bien à Narbonne, où toutes les périodes sont représentées, où on a même des archéologues comme Paul Tournal qui ont fondé une discipline qui est la préhistoire, qui a inventé une notion, etc. Donc on a tous les atouts pour faire un festival, mais qui n'est pas qu'un festival de films, qui est pour moi un lieu de rencontre des archéologues, mais également des professionnels de la médiation.
C'est un petit peu un congrès, enfin, toute proportion gardée.
C'est pas un congrès, non, c'est quelque chose, moi, qui
une rencontre, en tout cas.
Populaire. Hein. Moi, c'est grand public, mais dans lequel les scientifiques peuvent rencontrer justement le public, mais également les professionnels de l'image, que ce soit du film, de la bande dessinée, des auteurs, etc. Tout ce qui est médiation, il y a des gens il y a Ubisoft qui vient régulièrement, on a fait des expos, donc les jeux vidéo, voilà, tout ça, moi, ça me passionne, parce que c'est à travers ça qu'on communique l'archéologie au plus grand nombre, et ça, Narbonne, actuellement, on est les seuls à le faire. Hein. Ça, je vais vous faire rire, mais on est les seuls, à ma connaissance, au monde, à faire avoir une manifestation pareille, qui parle de l'archéologie sous toutes ses formes.
Et pour parachever l'œuvre, si je puis dire, vous prévoyez une exposition alors au musée Narbovia qui est prévue pour la mi-mai.
Voilà, c'est pour la
mi-mai. Vous l'avez évoqué, Marc Azéma, c'est une prolongation du film en quelque sorte. Alors essayez de mettre l'eau à la bouche alors, des futurs visiteurs.
C'est une extension, comme on pourrait dire, une déclinaison, une prolongation du film. Moi, j'ai toujours eu des projets au long cours. J'ai toujours apprécié. Moi, faire un film, ça me suffit pas. Enfin, c'est pas que ça me suffit pas, mais c'est toujours un projet de longue haleine. Et j'aime bien explorer le sujet à travers les plusieurs médias. Et l'exposition, c'est vraiment quelque part une forme d'aboutissement de ce projet qui a été initié dans les années 90 à travers le film sur le clos de la Lombarde, et cette intention première du collégien qui était de montrer, de voir la ville qu'on avait évoqué encore tout ça. Et donc à travers l'exposition, il va y avoir une très grande projection qui va permettre de s'immerger dans le passé de Narbonne à travers des reconstitutions virtuelles qui prolongent celles du film, qui vont beaucoup plus loin, et également une mise en résonance sur les techniques de restitution qui vont du dessin, comme le pratique Jean-Claude Levin, jusqu'aux jeux vidéo et au cinéma. Donc on va aborder tout ça. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez nouveau et qui va aussi dans la continuité de mon intention à travers le Festival des rencontres d'archéologie narbonnaise, qui est de mêler les médias. On vit à une époque où il faut mélanger, on a la chance, grâce aux technologies, de pouvoir aborder la communication. Donc, et pour de la pédagogie, pour montrer Narbonne, moi c'est l'intention de cette exposition, c'est de vraiment utiliser les technologies de l'image pour s'immerger dans ce passé, comme j'aurais aimé le faire il y a maintenant une petite cinquantaine d'années.
Oui, voilà, mais on est aujourd'hui, et voilà. L'idée c'est effectivement, alors peut-être un peu de démystifier justement la genèse de votre film et toutes ces reconstitutions. Puisqu'encore une fois, on parle de... Le dessinateur, il parle de quoi ? De ce qu'il a pu voir ailleurs.
Alors c'est qu'on va expliquer la démarche, qui n'est pas une démarche purement artistique, qui est un croisement entre la science et l'art, et qui bénéficie, à l'occurrence comme pour le film, du talent et de la compétence de Jean-Claude Golvin, qui est l'expert en matière de restitution, qui est quelqu'un qui était au CNRS et qui était directeur de recherche au CNRS et qui est devenu au fil des ans la référence. Et donc on a la chance de travailler avec lui. Donc c'est quelqu'un c'est quelque part un passeur, un peu comme moi pour la vidéo, c'est un passeur. Donc c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec les archéologues parce qu'il est lui-même archéologue, qui est capable de capter les informations et de le traduire par le dessin. Et après, d'un point de vue technique, on applique d'autres techniques pour aller sur la 3D, l'infographie, toutes les techniques actuelles qui permettent...
Et tout ça, ça va être démontré, exposé.
On va l'évoquer. Et c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup avec Ubisoft, ouais, sur les jeux Assassin's Creed, les grosses licences de jeux vidéo qui plaisent justement aux enfants. Donc c'est un moyen aussi de capter ce public pour leur montrer que l'archéologie, c'est quelque chose qui peut être passionnant et qui peut être aussi, qui permet d'utiliser des outils, qui sont aussi les outils des développeurs de jeux vidéo.
Voilà, petit peu sur ce paradoxe amusant, enfin c'est peut-être un paradoxe qu'on va conclure, Marc Azéma. Finalement, c'est les jeux vidéo au secours de l'archéologie et de la reconstitution archéologiste.
C'est les techniques, c'est-à-dire qu'on a la chance de vivre une période où les techniques deviennent... On a des techniques qu'on emploie à la fois dans l'archéologie, dans le cinéma et le jeu vidéo. C'est ça qui est formidable.
Voilà. Donc tout ça sera à découvrir à partir de la mi-mai au musée Narbovia.
Voilà, ça s'appellera Narbomartius, Renaissance d'une capitale.
Narbomartius, Renaissance d'une capitale. Merci Marc Azéma d'être venu avec nous faire le point un petit peu de ce qu'est l'archéologie et surtout ce qui se passe dans l'archéologie de la Narbonnaise. Et puis toute la médiatisation et la, comment dire, enfin les images, la création d'images qui tournent autour de cette archéologie.
Voilà, c'est ce...
Merci à vous. Notre prochain invité sera Éric Ménassy, qui est le maire de la ville de Trèbes, mais qui est également président du SMAR. Alors on va parler un petit peu de ce syndicat mixte qui gère l'eau et les inondations, notamment dans l'Aude. Et je remercie, c'est la coutume aussi, les auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci Marc Azéma.
Merci beaucoup.